On ne peut pas terminer ce podcast spécial Corée sans parler du film événementiel de Kim Ji-woon, qui est sorti cet été en Corée et depuis quelques semaines sur Netflix, Ilang, la brigade des loups, qui est un remake du Jinru qui est sorti en 1998, donc sur un scénario et une production de Mamoru Oshii. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle, très rapidement, avant de nous dire ce que tu en as pensé?
Après cette année de préparation en 2029, la Corée du Sud et la Corée du Nord se préparent à se réunifier. Les habitants se manifestent contre cette idée, et de plus en plus nombreux se montrent violents envers le gouvernement. Pas bien. Parmi cette foule se faufile un groupe terroriste anti-réunification appelé secte, qui sème la terreur en ville. Le terreur, c'est marqué. C'est pourquoi les dirigeants et la police créent une nouvelle unité spéciale pour les arrêter. Aha.
Trois points de suspension.
Suspense. C'est le résumé officiel Netflix.
Heureusement, parce qu'on n'a jamais rien compris. C'est le résumé
fait mise en Wikipédia.
Si, en même temps, c'est bien expliqué dans les 5 premières minutes qui prennent.
Et après, c'est oublié pendant ça.
Donc après, il y a une introduction très didactique du background.
Comme dans le film original.
Et on n'a pas de problème à rentrer dans l'univers de toute façon. Le problème vient pas de là. Le problème vient que. En fait, il prend l'original et il en retire tout ce qui est bien, en fait, j'ai l'impression. Tout le contexte, tout le sous-texte politique, tout ce qu'il y a d'intéressant dans le film original, je trouve que là, c'est jeté un peu aux orties et il en retire que le côté bourrin, actionneur de tout ça.
Qui a pas du tout d'ailleurs, que ça soit dans les films live de Oshii, dans le
exactement. J'ai l'impression d'un mec qui a vu une œuvre et qui a essayé de et qui a pas trop compris en fait et qui en a retiré certaines choses de son univers à lui et il a essayé de faire
un gros film d'action.
Oui, mais c'est pas un film d'action à la base, c'est ça que je veux dire.
Je suis d'accord avec toi.
Pour rebondir sur ce que disait Jérémy, j'ai surtout l'impression qu'il y a un type qui a vu une image d'une œuvre avec le casque noir, masque à gaz, les yeux rouges, les tuyaux, et s'est dit, c'est classe ça, on va faire un film d'action sur Tinder.
C'est ça.
Elvire.
Je voulais aussi revenir en fait sur le contexte dont on a parlé, qui est très didactique au début, c'est écrit noir sur blanc, donc on rentre dans telle époque en Corée, sauf qu'au bout de 20 minutes, même pas, le contexte est complètement zappé, et au bout d'une heure de film, Lila peut témoigner, on s'est regardé toutes les deux en se disant putain, en fait, ce mec il veut quoi,
oui,
en fait, c'est quels sont les tenants et les aboutissants.
Non,
à un moment c'est incompréhensible.
Ça résume toute la scène finale en fait. Il sait pas ce qu'il veut.
Au-delà de la scène finale, bien avant, au bout d'une heure de film, le postulat de départ est complètement oublié.
Je vais revenir un tout petit peu avant, heureusement qu'Efren n'est pas là, du coup je peux dire que moi ça m'a fait penser à ce que fait Zack Snyder quand il adapte Watchmen, c'est-à-dire c'est exactement la même chose, il prend des images iconiques, donc il va refaire du plan par plan sur la scène par exemple d'introduction, quand on est dans les égouts,
ouais.
Et après par contre il va absolument rien comprendre au message politique, et là j'y reviens, alors il y a un certain flou effectivement, sur ce que veulent les protagonistes, alors que c'est très clair chez Mamoru Oshii, ce qu'il veut dire. Alors que là, du coup, l'appropriation dans un contexte coréen pouvait être intéressant par rapport à l'histoire de la Corée, la dictature, la droitisation du régime qui est à ces dernières années. Il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait être fait.
Mais il choisit finalement de ne pas s'en occuper. Quoi.
Du tout traité, de manière extrêmement maladroite, au point que l'interprétation qu'on peut en faire rapproche quand même le film d'un mouvement nationaliste.
Exactement.
Où on a un groupuscule militaire qui finalement va se débarrasser d'une classe politique dirigeante qui est corrompue au-delà de tout ce qui est pardonnable et qui va arriver à réunifier finalement les deux Corées à la fin, qui sont attaquées de toutes parts par la Chine, le Japon, la Russie, les États-Unis, et c'est tout.
Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Donc du coup, il y a une certaine forme de ça légitime ces actions, les actions de cette brigade par rapport à la secte, qui est juste vue comme un vil groupe terroriste. Et bon, au niveau du message nationaliste, on peut être d'accord ou surtout ne pas être d'accord, mais peu importe, mais c'est exactement l'inverse de ce que dit Mamoru Oshii dans la saga Kerberos et dans Jinro. Et du coup, là, c'est problématique. Pourquoi prendre une œuvre qui existe pour en faire quelque chose qui n'a rien à voir, rajouter de l'action, et en plus faire un discours politique.
Mais le pire, c'est que je ne sais même pas si le discours politique est tellement... Et si vous voulez que ça, parce que j'ai l'impression qu'il s'est tellement zappé à un moment que l'action prenant le pas sur le reste...
Oui, non, mais je pense vraiment que
ça bifurque naturellement, en fait.
Maladroit,
naturellement. En plus, ça dessert Kim Ji-woon, parce que tu as l'impression que c'est un gros teubé qui n'a pas compris
le gros original. Alors, quand tu vois ses anciens films, il y a une vraie réflexion sur le mal, sur...
Bon, c'est quand même un réalisateur bourrin, objectivement. Même J'ai rencontré Dame en table de finale, c'est pas la folie. Je l'adore, mais c'est pas la folie.
Il y a quand même une réflexion dans ce film.
Oui, il y a une réflexion.
Qu'il n'a pas dans les autres, d'ailleurs.
Bah ouais.
J'ai l'impression qu'il est un peu teubé quand même.
Il y a quand même Jazz of Shadows, bon, ça reste du gros divertissement populaire, mais il y a quand même tout un contexte. Oui.
Ah, j'ai oublié. Non, mais il est cool, mais on va dire que le contexte commence déjà à être un petit peu oublié, en fait. Le discours est...
En fait, c'est pas ce qui l'intéresse vraiment. Mais
ça, c'est pas grave à la rigueur.
Mais ça donne l'impression que lui n'a pas compris, en fait, le truc. C'est pas... Qui s'intéresse pas. C'est une relecture. C'est une relecture de l'œuvre. Il a le droit.
Comme Suspiria. Comme Suspiria, c'est exactement ça, en fait. Et c'est pour ça que je suis aussi déçu, parce que je pensais justement qu'avec ce film-là, en reprenant en remakant un chef-d'œuvre comme ça, surtout venant de Oshii, avec tous les thèmes que ça peut embrasser, il pouvait sortir un peu de ce carcan de faiseur virtuose pour devenir un vrai réalisateur. J'aime beaucoup tous ces autres films. Hein, même Deux Sœurs, Le Bon, la Brute et le Cinglé, je ne me suis jamais autant éclaté devant un... Voilà, mais après, justement, il avait peut-être l'occasion avec ce film-là de vraiment devenir, de passer la case au-dessus. Quoi.
Mais après, qu'il le fasse pas, moi, ça ne me dérange pas.
Il se prend les pieds dans le tapis, en fait.
Non, mais qu'il le fasse pas, ça ne me dérange pas, en fait.
Après, le film est super bien réalisé, c'est super prof.
Mais après, le truc, c'est que tu as l'impression vraiment qu'il le fait pas exprès, en fait. Tu as l'impression qu'il comprend pas.
Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il s'enlise au fur et à mesure, en fait, et en cherchant à faire un scénario super alambiqué.
Enfin, les 20 dernières minutes,
en fait, au fur et à mesure, ça devient n'importe quoi en termes de narration.
Non, mais une absurdité.
J'ai l'impression que lui-même ne sait plus du tout en fait où il en est en termes de narration.
Bah,
on s'en fout.
À force de vouloir faire un héros mutique et mystérieux, ça dessert complètement le film aussi.
Non, puis la fin elle est absurde. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Putain, elle est interminable aussi.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Nico. Moi dans l'absolu, s'il avait voulu déconstruire complètement le film et plus en faire qu'un film d'action, bon, pourquoi pas, j'aurais pas forcément voulu. Mais à ce moment-là, il y a un problème qui pour moi est énorme, c'est que. Il a un personnage principal qui n'est absolument pas charismatique. Mmh. Alors, je peux pas dire que c'est Kang Dong-woon qui joue ça. Je peux pas dire qu'il joue mal parce que je crois que c'est son personnage. Mmh. Mais son personnage est absolument très chiant, bien en fait. Général, son personnage n'a pas d'intérêt. Il est...
C'est lui qui joue l'étudiant dans 1987.
Ouais. Il est quand même pas super charismatique, cet acteur.
Mais les personnages sont pas écrits et c'est vrai qu'il y a un défaut de motivation des groupes politiques qui agissent.
On a l'impression que le personnage qui est joué par l'acteur d'Azura, dont j'ai oublié en fait
leurs intérêts.
Mais lui est bon pour
Non, mais il est bon, mais à un moment on s'est regardé avec Lila, on s'est dit qu'est-ce qu'il fait.
Puis l'intrigue amoureuse qui arrive comme un
cheveu. Dans
la dernière partie,
elle est traitée comme un drama, quoi. Elle est traitée comme.
C'est
filmé comme un drama. Genre les rendez-vous dans la Séoul Tower.
L'histoire d'amour marche
et dans,
pas.
Et dans la librairie.
Oui, voilà, ça m'a fait plaisir de revoir des petits coins de Séoul, mais bon, à part ça.
Tu voulais le laisser.
Qu'est-ce qui était à Séoul
mais sinon, à part ça.
Non, mais c'est vrai que l'histoire d'amour marche pas du tout en plus.
Non, oui, non. Ça colle pas.
Il n'y a pas d'alchimie déjà entre les deux.
Il n'y a pas d'alchimie.
On dirait deux autistes, là, ils sont là.
T'as une sortie à Ryan Gosling en règle.
Non, c'est mieux, j'aime bien Ryan Gosling aussi.
Bon, on a compris que. Ilang, la brigade des loups, donc de Kim Ji-woon, n'était pas une franche réussite.
Et désolé pour les autistes, hein. Big up, si on m'écoutait.
Il y a Case to the Heart pour les...
Ça va pas du tout,
c'est encore pire en fait, c'est encore pire. C'est pire que tout.
Si vous m'écoutez ou pas.
Dédi. Soyez attentifs, bordel.
Case dédi pour les autistes, quoi.
Non,
mais merde.
Oh, vraiment difficile.
Qu'est-ce que l'est-on ?
Nous allons maintenant parler de nos attentes. Nicolas.
Je croyais qu'on zappait ce passage. Ok. La série Kingdom, donc le réalisateur de Tunnel. Et parce que tu voulais parler de ça aussi ?
Bah
ça,
oui.
J'en ai un.
Vas-y, fais toi. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a comme film coréen ?
Alors, parlons un peu, du coup, c'est la... Ça sort
donc,
le
25 janvier. C'est une série qui va sortir sur Netflix, qui... se passe à l'époque, je sais plus quel nom, Joseon peut-être, enfin je sais plus, c'est un film en costume en tout cas, avec des zombies. Et donc justement il y a des gens qui me disaient récemment, mais pourquoi personne n'a pensé à faire un film en costume à la coréenne avec des zombies, bah voilà. Il y a une série qui arrive.
Sachant qu'il y a un film aussi, qui s'appelle Rampant, qui est sorti en Corée et aux États-Unis, en fait, un film historique avec des zombies.
Il y a Monstrum aussi, on n'a pas parlé de PFCP. Mais c'est monstre.
Oui, mais il n'y a pas de zombies.
Dispersons pas.
C'est pas indispensable.
Et comme il n'y a pas assez de films avec des zombies en ce moment, on attend.
Donc c'est pas du tout à la mode, les zombies. Hein.
Non.
Jérémy, t'as une attente ?
Bah, on va rester dans les zombies. Hein. La suite d'Aller Train pour Poussin, qui est en tournage, je crois. Et j'ai revu le premier il n'y a pas longtemps et je l'ai revu à la hausse parce que j'ai trouvé.
Le film live, hein, du coup, ouais.
Oui, le film live. Pas le film live. Et je trouvais ça vraiment, vraiment génial pour le coup, en termes de, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes de discours politique qui est vraiment bien vénère.
Trop bien.
Et j'attends la suite parce que voilà, c'est un cinéaste qui me plaît, même si je préfère quand il fait du dessin animé, mais je trouve qu'il est beaucoup plus vénère et beaucoup plus pertinent.
On n'a jamais parlé de psychokinésis.
Ouais, mais ça vaut pas le coup de parler de psychokinésis.
Voilà. Psychokinésis, c'est encore pire que Kim Ji-woon.
N'en parlons pas.
N'en parlons pas, c'est pas bien.
Netflix tue le cinéma coréen. Non, et puis voilà, j'attends vraiment ce film parce que je pense qu'il va être, ça va être bien. Voilà.
Lila ?
Ma foi, je n'ai pas d'attente particulière, si ce n'est que le prochain film de Bong Joon-ho est en préparation, Parasite. Donc, à ne pas confondre avec l'adaptation de manga japonaise, voilà, avec Konimara Jun et Sumitani Shota, malgré tout mon amour pour eux, c'était pas une réussite. Donc cette fois, j'espère que ce sera quand même un peu plus réussi du côté de Bong Joon-ho. Effectivement, Nicolas, tu as raison de relever, ce ne sera pas comme Okja une production Netflix, ce sera une, voilà, un film destiné à sortir en salle. À part ça, on n'en sait pas grand-chose à ce stade, si ce n'est que le titre de Parasite, pour l'instant, n'a pas l'air particulièrement d'être un indice sur le contenu, puisque apparemment, ce serait plus une histoire de famille, mais bon, une histoire de famille, ça peut être tout et n'importe quoi, donc bon, vraiment, on attend plus de news à ce sujet.
Parce que The Host, c'est une histoire de famille.
Oui, voilà, exactement.
Justin ?
J'ai pas d'attente particulière, à part aussi le Bong Joon-ho aussi, curieux de voir le retour au pays, ce que ça va donner. Sinon, il y a la série de Park Chan-wook qui est en cours en ce moment, où je serais curieux de voir, vu que ça en était plutôt bien sorti sur une prod internationale avec Stalker, en tout cas pour moi. Donc, je curieux de voir
ce que ça va donner. C'est pas beaucoup, hein.
Ah, mais...
c'est mieux que Stalker.
Non, mais Stalker, c'était déjà.
Donc voilà, j'ai pas d'attente particulière, j'attendrai de voir ce dont on aura droit dans sortie française, hein, puis on verra à ce moment-là.
Pas d'attente particulière non plus, je me laisserai porter au gré des sorties. Et puis forcément un ou deux
après Grâce, parce qu'il a peut-être fini pour 2019.
Ah oui, il y a des images de son prochain qui sont
déjà. Voilà. Le prochain est déjà terminé, donc j'imagine qu'il y en aura deux en 2019.
C'est pas Hôtel, je sais pas quoi. Là.
Ouais, si,
L'Hôtel sur une rivière.
J'ai vu une scène, et déjà je me suis dit ça va être le film de l'année 2019.
Could be.
Ça a l'air fantastique, vraiment.
Tu es chaud, Victor, là. Il va se retenir, là.
Il va enlever sa chemise. J'ai vu un extrait sur Twitter, je me suis dit là, top 1 2019. Quoi, top 2 parce qu'il y a
Big Game. C'est pas aussi.
Top 2, quoi.
Elvira, il te reste quelque chose à.
Oui, le prochain film du réalisateur de Terror Live, qui s'appelle en anglais Tech Point, et donc qui sort à la fin de l'année, en fait, en Corée, là, le 26 décembre, et qui suit une équipe de mercenaires engagés par la CIA. Qui doit faire une opération vis-à-vis de la Corée du Nord et qui se trouve empêtré dans les souterrains, en fait, dans la zone démilitarisée, et qui a deux doigts de déclencher une nouvelle guerre mondiale. Et ça, d'après la bande-annonce, ça bourrine grave.
C'est bon, Nico, ça.
Mais Nico, il l'attend bien.
Ah, mais et ça... en fait, tu vois déjà qu'il y a beaucoup de trucs de jeux vidéo, genre FPS, machin, ça.
Ouais. Ouais, mais franchement, bien. Ça a l'air vraiment pas mal. Après, à voir, c'est juste un premier trailer qu'on a pu regarder.
Bon, bah très bien, on vous donne rendez-vous au tout début 2019.
Victor, pas peu d'attente.
Bah, en fait, toutes les attentes, oui, il y a les derniers épisodes de Little Drummer Girl de Park Chan-wook, qui est une série vraiment intéressante sur la. En tout cas, c'est une adaptation de John Le Carré par Park Chan-wook pour la BBC. Et pour l'instant, il y a 4 épisodes qui ont été diffusés, donc quand vous écouterez ce podcast, les 6 seront disponibles. Et c'est fascinant parce que même si c'est John Le Carré, ça se passe en 79 entre l'Allemagne, la Yougoslavie, enfin, en tout cas en Europe. On reconnaît tout à fait la patte de Bong Joon-ho.
C'est intéressant de retrouver la patte de Bong Joon-ho.
la patte de Park Chan-wook dans sa mise en scène baroque, et surtout c'est une réflexion assez intéressante et finalement assez touchante sur ce qu'est interpréter quelqu'un d'autre, sur ce qu'est le jeu d'acteur, sur ce qu'est diriger donc un acteur et être dans la peau d'un autre.
Et du coup ça change un peu parce que John le Carré en général ça donne des films d'espionnage un peu froid, un peu austère,
un peu carré,
assez gris. Donc du coup il sort de cette école life et il reste dans son style flamboyant. Oui,
justement, ouais, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux dans les couleurs, dans la mise en scène. Donc c'est assez intéressant au niveau du traitement. Ouais. Et sinon, ouais, la série que j'attendais, c'était Kingdom. Donc voilà, on va rester sur Netflix et voir si Netflix peut donner, en tout cas en série, donne des choses plus intéressantes que les films, en tout cas pour la Corée sur les mois à venir. Mais en tout cas, c'est des choses que vous avez de toute façon évoquées. Et nous, on va se retrouver donc tout début 2019 pour un podcast bilan 2018. Et je pense qu'on reviendra. Voilà, on pourra parler du Big Gun, on pourra revenir aussi sur l'importance de Netflix sur les productions asiatiques. Et on aura un spécial Japon où on pourra parler du Koreeda, du Kawase, avec le festival Kinotayo qui devrait arriver très prochainement. See you, Space Cowboys.
Salut.
께서는 부마하셨습니다.
Abba마마께서 정녕 무사하신 것입니까? 아무리 기다리셔도 전하께서는 오지 않으실 겁니다.